Avant d'aller dans la parole, on aime toujours faire une petite déclaration de la foi ici, à la vie comblée. Si c'est la première fois que vous venez et c'est la première fois que vous êtes avec nous, la raison pour laquelle on fait cela, parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche et ce qu'on croit de notre cœur s'accomplit. Et c'est en confessant avec la bouche, par exemple, en croyant du cœur que nous sommes sauvés. Et on aime faire cette déclaration parce qu'on ne veut pas juste écouter le message, on ne veut pas juste lire la Bible comme on lit n'importe quel autre livre. C'est un livre inspiré de Dieu. Combien de vous croyez que la Bible est vraiment inspirée de Dieu? Amen. Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen, amen. La puissance d'une vie heureuse. Et je vois que c'est fun parce que la plupart de vous, ce matin, vous avez l'air d'être heureux. Déjà, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais si par chance vous êtes ici et dans votre cœur, c'est pas le cas, j'ai une bonne nouvelle. On a quelque chose à vous offrir, quelqu'un plutôt à vous offrir qui est garanti de vous donner le bonheur que vous cherchez. Amen. Mais il y a un verset en 1 Pierre chapitre 3. Si vous voulez tourner dans vos Bibles ou sinon il y a une feuille qu'on vous a donnée à la porte avec presque tous les versets qu'on va lire aujourd'hui. Mais 1 Pierre chapitre 3, c'est un peu notre texte clé pour la série qu'on a commencée il y a déjà 5 semaines sur la puissance d'une vie heureuse. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que Dieu veut qu'on soit heureux. Et c'est bon d'être heureux parce que, premièrement, c'est beaucoup plus agréable d'être heureux que malheureux, vous êtes d'accord? Mais deuxièmement, quand nous sommes heureux, ça nous rend plus efficaces dans le royaume de Dieu. Quand nous sommes heureux, ça nous donne une puissance pour effectuer des changements dans notre entourage. Les gens qui nous entourent vont être touchés, attirés à nous. Ils vont même être poussés à nous poser des questions. Mais pourquoi est-ce que vous êtes si heureux? Qu'est-ce que vous fumez? Non. C'est bien correct, hein? Quelqu'un me pose la question. Je fume rien, mais laisse-moi vous dire, hein? Je suis en feu. Pour le Seigneur. J'ai le feu en moi. Hein? Gloire à Dieu, prochaine fois que quelqu'un vous demande, avez-vous du feu? Oui, j'ai du feu. J'ai le feu du Saint-Esprit en moi. Alléluia. C'est bon, n'est-ce pas? J'ai l'Esprit Saint, j'ai la présence de Dieu, tu puissant en moi. Mais regardons ce verset, 1 Pierre chapitre 3, parce qu'on veut être efficace. On veut, comme on l'a dit, toucher notre entourage. On veut que les gens qui sont autour de nous connaissent le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui est le sauveur du monde, n'est-ce pas? Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent aimer la vie? Et voir des jours heureux. On va faire un petit sondage. Combien de vous, vous voulez vraiment, je veux dire vraiment, voir des jours heureux dans votre vie? Et je pense que c'est... Je veux juste vérifier, hein? Quelqu'un qui n'a pas la main dans l'air, vous voulez pas? Mais, prochaine question. Combien de vous, vous êtes prêts à faire ce qui est nécessaire pour voir les jours heureux? Amen! Alléluia! Des fois, c'est ça le problème. On veut le résultat. On voit les personnes qui sont toutes en forme et musclées. Et on veut ça. Oui, c'est ça. Je veux les biceps comme ça. Je veux avoir les abs comme ça. Mais est-ce que vous êtes prêts à faire des exercices? Mais ça, c'est une autre histoire. Hein? Non, donne-moi une pilule. Laisse-moi faire quelque chose. Donne-moi une pilule miracle et puis je vais... avoir des résultats sans faire des efforts. Et ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va voir ici? C'est que Dieu nous a donné une recette. Il nous a donné une recette pour avoir une vie heureuse ici sur la terre. Comme je dis, si quelqu'un veut avoir un gâteau, vous avez goûté un gâteau chez quelqu'un que vous aimez tellement, ah, il faut que j'aie la recette. Alors, si vous avez la recette, il faut suivre la recette, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire des exceptions. Ben, je sais que la recette dit qu'il faut mettre de la farine, mais je pense que je vais laisser faire la farine et juste faire le gâteau, juste du sucre, les œufs et de l'eau et la vanille, etc. Mais un gâteau sans farine, c'est un peu bizarre. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ça que je veux dire ce matin, c'est que Dieu nous a donné une recette pour avoir une vie heureuse. Et tout le monde est d'accord qu'on veut tous voir les jours heureux. Mais voici la recette. On en a parlé un peu la semaine passée. Première chose qu'il dit, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc, première chose, si on veut avoir une vie heureuse, il faut apprendre à parler selon la parole de Dieu. Et si on ne suit pas cette recette, ça marche pas. Si on décide, bon, mais je vais laisser faire la suggestion de Dieu, le conseil de Dieu, je vais juste dire qu'est-ce que je veux, quand je veux, la façon que je veux, je vais parler négative, je vais blasphémer, sacrer, faire tout ce que je veux avec ma bouche. Posez-vous pas des questions par la suite, pourquoi est-ce que je suis pas heureux dans la vie? C'est facile de savoir pourquoi vous n'êtes pas heureux, parce que vous n'êtes pas en train de suivre la recette. La recette, c'est préserver votre langue du mal. Préserver vos lèvres. Il ne faut pas dire des choses trompeuses, mais il faut dire la même chose que Dieu dit, n'est-ce pas? On confesse sa parole. On parle selon la volonté de Dieu. Le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ça qu'on a vu la semaine passée. Si vous n'étiez pas là, je vous suggère d'aller sur notre site web et c'est gratuit. Vous pouvez écouter le message. Sinon, on a des cassettes à vendre pas cher. Mais verset 11, on va voir le deuxième ingrédient dans la recette aujourd'hui. Deuxième chose, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Donc ça, c'est une chose qui est un peu plus délicate quand on parle de ça, n'est-ce pas? Parce que là, la Bible dit clairement que si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, première chose, gardez votre langue. Deuxième chose, éloignez-vous du mal. Et là, c'est délicat parce que la plupart de nous, on a eu des expériences variées. On a tous des arrière-plans différents. Dépendant de la façon que vous étiez élevé par vos parents, dépendant qu'est-ce que vous avez été enseigné dans la religion, quand on parle de vous éloigner du mal, il y a toutes sortes d'émotions, toutes sortes de pensées qui peuvent entrer dans votre cœur et dans votre tête. Il y a, pour quelques-uns de vous, ça vous rappelle des mauvais souvenirs, des personnes qui sont dures et presque cruelles, des personnes légalistes qui ont dit « Voici les règles, il faut que tu les suives, et si tu ne suis pas ces règles, pow! » Ça, c'est pas du tout qu'est-ce que nous sommes en train de dire ce matin. La Bible dit qu'il faut s'éloigner du mal afin d'être heureux. Mais pourquoi? Première chose qu'on va voir, et on va répondre à cette question, pourquoi Dieu veut-il qu'on s'éloigne du mal? Je pense que c'est là qu'il faut commencer, parce que si vous avez une mauvaise idée dans votre tête du pourquoi que Dieu veut que vous vous éloignez du mal, que ça va vous empêcher de vivre pleinement dans sa volonté pour votre vie. Donc, on va lire un verset, en Ésaïe chapitre 1, verset 16. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment riche comme verset. Et c'est dans vos notes. Ésaïe chapitre 1, verset 16. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Tout le monde dit « cessez de faire le mal. » Et puis, la prochaine chose, « apprenez à faire le bien. » Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Parce que tout de suite, je veux que vous sachiez que toutes les choses que Dieu nous demande à faire, que ce soit garder notre langue et parler selon la parole de Dieu, ça c'est une chose qu'on est dans l'impossibilité de faire avec notre propre force. On a vu ça la semaine passée. Aucun homme est capable de dompter la langue. Mais avec Dieu, tout est possible, n'est-ce pas? Amen. Dieu peut nous aider à dompter la langue. Et laissez-moi vous assurer qu'il n'y a aucune personne sur la planète qui est capable de se laver lui-même. Il n'y a personne qui est capable d'arrêter de faire le mal. Tous ceux et celles qui sont sur la planète Terre sont dans l'impossibilité de le faire avec leur force humaine. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu continue et il dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Donc là, on voit que Dieu est en train de nous montrer son plan pour le salut en réalité. On sait que sans Jésus, je suis dans l'impossibilité de vivre dans la sainteté. Sans Jésus, je suis fait. Et vous? Mais grâce à lui, grâce à son sang a été versé pour me laver. Son sang a été versé pour me justifier. Et moi, je suis venu dans ce monde infecté par le péché. J'avais autrefois une nature pécheresse et j'ai invoqué le nom de l'Éternel. J'ai vraiment appelé au secours à Jésus. Et j'ai confessé avec ma bouche que Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur, mon maître. J'ai cru dans mon cœur qu'il était ressuscité des morts et j'ai été sauvé. Et Dieu a fait de moi une nouvelle création. Tous les péchés de mon passé ont été mis dans une mer d'oubli. Il a effacé complètement de A à Z tous les actes, toutes les choses que j'avais faites qui n'étaient pas correctes. Et je suis capable aujourd'hui de me tenir dans la présence de Dieu, blanc comme la neige, n'est-ce pas? Et pas grâce à ma justice, mais grâce à sa justice. Donc, je veux que ça soit clair aujourd'hui, que nous ne sommes pas en train de vous donner une longue liste des règles, des choses à ne pas faire. La chose à faire, premièrement, c'est recevoir Jésus. Donnez votre cœur à lui. Acceptez sa grâce et sa miséricorde, parce que sans Jésus-Christ, nous sommes tous dans l'impossibilité de vivre une vie pure devant lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Bon, mais continue. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on s'éloigne du mal? Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on s'éloigne du péché? Parce que je suis convaincu que ceux et celles qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ, on devrait être capable de voir une différence entre ceux qui sont dans la famille de Dieu et ceux qui sont toujours dehors. Est-ce que vous êtes d'accord? Ceux qui connaissent Jésus devraient vivre d'une façon digne de notre vocation. Mais la première chose qu'il faut savoir, pourquoi Dieu veut-il qu'on s'éloigne du mal? D'abord, premièrement, c'est parce que Dieu est bon. Tout le monde dit Dieu est bon.
Dieu est bon.
En fait, on va dire Dieu est très bon.
Dieu est bon
et il veut nous protéger. Il faut que vous sachiez, il est bon, il veut nous protéger. Donc, si jamais Dieu dit cette chose-là, cette affaire-là, je ne veux pas que tu le fasses. Je ne veux pas que tu touches à cela. Je ne veux pas que tu sois impliqué dans telle activité, que tu fasses une telle chose. Je ne veux pas. Première chose qu'il faut savoir, c'est pas parce que Dieu veut nous priver du plaisir. Et ça, c'est la mentalité de beaucoup de gens. Ils pensent tout de suite que quand Dieu dit « ne fais pas une chose », c'est parce qu'il veut nous priver du plaisir. Au contraire, Dieu nous aime, il est bon et il veut nous protéger. Vous qui êtes parents, est-ce que vous voulez voir vos enfants souffrir? Ou est-ce que vous voulez les voir grandir et vivre toute leur vie dans la sécurité? C'est la même chose. Dieu est bon et il veut nous protéger. Et il sait que le péché fait mal. N'est-ce pas? Moi, je suis content d'avoir un papa qui m'aime assez pour me dire, touche pas à ça, tu vas te faire mal. Amen?
Amen.
Donc, Dieu est bon et il veut nous protéger. Alléluia. Moi, bon, il y a plein d'histoires que je pourrais raconter sur mes enfants, mais il faut que je fasse attention. Il y a quelques-uns qui sont là. Mais je peux raconter peut-être des histoires de ma jeunesse. Ça, c'est notre histoire. Mais regardons, il y a Psaume 5, verset 11, qui dit, « Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Donc encore, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu veut qu'on soit dans la joie et Dieu veut qu'on soit protégé. Et le péché est dangereux. Amen? Alléluia. Il y a une raison pour laquelle Dieu dit de faire les choses comme il veut qu'on le fasse. On peut prendre juste un exemple de la sexualité, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, la sexualité, c'est un domaine où on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion, beaucoup d'abus et beaucoup de problèmes. Dieu a dit dans son plan, juste un exemple, que au niveau de la relation sexuelle, qu'un homme est supposé de se marier avec une femme, ils sont supposés de rester fidèles pour toute leur vie. Ça, c'est le plan de Dieu. Un homme, une femme, toute la vie. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être être fâchées avec moi quand je dis cela, mais c'est pas moi qui l'a dit. C'est la parole, n'est-ce pas? Donc, sois pas fâché avec moi. Mais vous savez, les statistiques ici au Canada, ils disent que en moyenne, les Canadiens vont avoir en moyenne de 14 partenaires sexuels dans leur vie. Ça, c'est le moyen. 14 partenaires sexuels pour chaque Canadien. Je pense qu'on est loin, loin, loin de qu'est-ce que Dieu a établi comme standard. Vous êtes d'accord? Mais pourquoi les gens disent, oh, mais tu sais, Dieu veut nous priver du plaisir. Au contraire, mon frère. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Et qu'est-ce que on sait maintenant, c'est que la plupart des maladies transmises sexuellement, on sait que si deux personnes suivent le plan de Dieu, hein, un homme avec une femme pendant toute une vie, qu'il n'y a aucune possibilité que ces maladies transmises sexuellement peuvent être présentes dans leur vie de couple. Il n'y a même pas une possibilité. Donc, vous savez, c'est pas parce que Dieu veut pas que les gens aient du fun ou du plaisir, il veut pas qu'ils souffrent avec ces maladies, il veut pas qu'ils meurent de ces maladies, il veut pas non plus que la société soit si mêlée comme elle est aujourd'hui, parce que il y a tant de personnes avec tant de partenaires sexuels, il y a des gens aujourd'hui qui savent même pas qui sont leurs parents. Et ça, c'est pas le plan de Dieu. Et Dieu veut protéger la société, hein. Là, je sais que c'est un peu plus sérieux aujourd'hui, hein. On vient de célébrer et c'est le fun, mais on va voir qu'on est toujours en train de célébrer. Je pense qu'on devrait célébrer la bonté de Dieu. Dieu, tu es tellement bon que tu as mis en place des standards. Tu nous as protégés avec ta parole. Seigneur, merci. On se réjouit comme la parole de Dieu dit. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Et c'est ça. Tous ceux qui se confient, c'est une question de confiance. Est-ce que vous faites assez confiance à Dieu pour lui croire? Et d'être sûr et certain que qu'est-ce qu'il te demande à faire, c'est la meilleure chose pour vous. En fait, la Bible dit, la crainte des hommes tend en piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est quoi? Protégé. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Oh, c'est fun. C'est merveilleux c'est une joie inexprimable de savoir que nous sommes en règle avec Dieu, on suit la parole de Dieu, j'ai rien à craindre. Pas besoin de craindre qu'on va attraper quelque chose ou avoir des résultats du péché dans notre vie parce que nous suivons les principes de Dieu. Amen. On parle de comment avoir une vie heureuse. Comment avoir la joie et aimer la vie et voir des jours heureux. Deuxième chose qu'il faut savoir, pourquoi Dieu veut-il qu'on s'éloigne du mal? C'est parce que le mal nous éloigne du meilleur. C'est pas juste que le péché nous fait mal. Ça, c'est une partie de l'histoire. Le péché fait extrêmement mal. Le péché fait mal aux gens. Mais, et Dieu veut nous protéger. Mais c'est pas juste ça. Le mal nous éloigne du meilleur. Quelqu'un qui est en train de vivre en dehors la volonté de Dieu et les principes que Dieu a établis pour la vie. Une personne qui est en train de vivre en désordre par rapport à la parole de Dieu ne peut pas avoir la meilleure chose que Dieu a planifiée pour sa vie. On a juste à regarder les enfants d'Israël qui se promenaient dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rebelles, ils étaient révoltés, ils ne voulaient pas obéir à Dieu et croire à la parole de Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu, ils ne sont pas entrés dans la terre promise pour, en fait, jouir des meilleurs délices et des meilleures productions du pays. On a vu cela dans notre texte en Ésaïe 1, ici, c'était marqué que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Tout le monde dit les meilleures productions. Alléluia! Il faut avoir cette révélation. Jusqu'à quel point Dieu est bon, jusqu'à quel point Dieu veut que vous soyez bénis. Et Dieu dit, accepte pas ça! J'ai quelque chose de beaucoup mieux que ça! Et une chose que je sais, Satan ne peut pas créer quoi que ce soit. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'est pas créateur. Il est une création. Il était un ange qui s'est révolté contre Dieu. La seule chose que Satan peut faire, c'est prendre les choses que Dieu a créées et il peut les tordre. N'est-ce pas? C'est pourquoi, vous savez, tous les plaisirs que Satan peut vous offrir, toute la joie qu'il peut vous offrir, les plaisirs de ce monde qu'il peut vous offrir, c'est pas lui qui a créé ces plaisirs. C'est lui qui est en train de vous offrir quelque chose en contrefaçon, quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose qui est impur. Il a pris la vraie chose et il a tout gâché. Il dit, oh, mais prends ça, mais c'est tout gâché. Encore, je prends encore l'exemple de la sexualité. Il vous offre, oh, tu vas avoir beaucoup de plaisir dans cette relation sexuelle. Oh, mais en acceptant cela, on refuse la meilleure. Laisse-moi vous dire, est-ce que je peux être franc avec vous? Et je en parle parce que notre société en parle. Tu as juste à ouvrir la télévision aujourd'hui et c'est affreux. Combien nos enfants, mes enfants, 6 et 7 ans, ils reviennent de l'école et ils parlent de la sexualité. Et pas d'une bonne façon, mais ils racontent qu'est-ce que les amis ont dit. À 6, 7, 8 ans, c'est pas drôle. Vous êtes d'accord? Et c'est pourquoi si on n'en parle pas à l'Église. Mais laisse-moi vous dire, en refusant d'accepter le plan de Dieu et en recevant une, on pourrait dire, un substitut tordu offert par l'ennemi, c'est affreux. Mais laisse-moi vous dire ceci. Je crois que s'il y a quelqu'un qui devrait avoir du plaisir au niveau de la sexualité, c'est les enfants de Dieu. Parce que Dieu a créé la sexualité. C'était son idée à lui. Amen. C'est lui qui a créé le corps humain avec la capacité d'avoir du plaisir dans une relation saine. C'est lui qui sait exactement comment ça fonctionne. Et les enfants de Dieu peuvent même consulter papa pour avoir du conseil. Pasteur, de quoi est-ce que vous parlez? Là je parle des vraies choses aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, « Oh, je veux pas être chrétien, je veux pas vivre comme Dieu veut que je vive, je vais manquer du plaisir. » Au contraire, mon frère. Tu vis pour le Seigneur et tu vas avoir le meilleur, tu vas manger les meilleures productions du pays. Quelqu'un t'offre la drogue ou la boisson et c'est le fun d'être ivre, c'est le fun d'être gelé. Ça donne des sentiments agréables. Mais reste-moi vous dire, c'est juste quelque chose de pas mal tordu. Dieu a dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est beaucoup mieux juste d'être rempli de l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Les gens, le jour de Pentecôte, ils pensaient que, oh, ils sont sous, hein, qu'est-ce qu'ils ont bu? C'est juste le 3e heure du matin. Mais laisse-moi vous dire, les gens devraient se poser des questions, comme j'ai dit, qu'est-ce que vous fumez? Qu'est-ce que vous buvez? J'ai bu de l'Esprit Saint ce matin. Alléluia. Et ça, c'est beaucoup mieux. C'est la meilleure chose. Satan peut tenter les personnes de tricher sur les impôts, de mentir pour avoir un peu plus des sous ou de encore plus aller voler les autres pour avoir quelque chose. Mais en faisant cela, ça vous éloigne du meilleur. Quelqu'un peut, bien entendu, ramasser des fonds par des moyens moins honnêtes. Mais laisse-moi vous dire, le bonheur que ça apporte, c'est temporaire. Tandis qu'une personne qui vit selon les principes de Dieu, donner, il vous sera donné. Bonne mesure, serré, secoué, qui déborde. Hein? Honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus. Quelqu'un qui gère ses finances selon Dieu va jouir d'une prospérité qui va apporter un bonheur qui n'est pas temporaire, mais qui va porter du fruit pour l'éternité. Donc, je veux juste que vous sachiez que à chaque fois quand Dieu dit dans la parole de ne pas faire une chose qui est mal, c'est parce qu'il veut vous protéger et parce qu'il a quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Amen. Une fois avec la jeunesse, j'avais un bonbon, un morceau de chocolat. J'ai dit, combien de vous aimeriez avoir ce morceau de chocolat? Ah oui, je le veux. Puis mais je l'ai laissé tomber par terre et ça a roulé. Et, puis on a fait toutes sortes de choses avec. Mais est-ce que tu veux l'avoir? Ou j'avais une autre boîte au complet qui n'a jamais été ouverte, remplie, pleine à craquer. Qu'est-ce que tu veux, ça, ou aimerais-tu mieux avoir l'autre qui est pleine? Tu sais, il faut avoir cette image. Quand Satan nous offre du plaisir, c'est toujours un plaisir sale. Ah oui, si on ne sait pas, si on ferme les lumières et on mange ça, ah oui, c'est bon. Mais en choisissant le bonbon sale, on se prive de la boîte entière. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Là, je fais ma job du pasteur. Hein? Je parle. Moi, j'ai besoin de parler de ces choses. Hein? J'aimerais des fois, je dis, soyez bénis, c'est le fun, on saute, on crie pour joie. Ah. Mais une partie de ma job, c'est de prêcher toute la vérité, tout le conseil de Dieu, n'est-ce pas? Et là, on parle de comment aimer la vie et voir des jours heureux. Dieu dit, tu veux être heureux? Je sais comment. Parle comme il faut. Et éloignez-vous du mal. Je veux te protéger et je veux le meilleur pour toi. J'aime ce verset tellement. Psaume 84, 11 dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia! Les jeunes, les moins jeunes, tout le monde aujourd'hui. Notre Père ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est une chose, si j'ai des regrets dans ma vie, et j'en ai quelques-uns, regret numéro un, c'est que quand j'avais 13, 14, 15 ans, j'ai cru un mensonge que si je vis pour Dieu, je ne vais pas avoir autant de fun que si je vis juste dans le monde. Et même si mon cœur voulait vivre pour Dieu, j'avais ce mensonge qui disait, « Ah, mais tu vas manquer le plaisir, tu vas manquer toutes sortes de fun, tu es jeune seulement une fois dans la vie, tu vas manquer toute ta jeunesse si tu vis pour Dieu. » Et j'ai cru ce mensonge, pas longtemps, gloire à Dieu, mais assez longtemps pour goûter au plaisir de ce monde un petit peu. Dieu m'a tellement protégé dans cela. Il y a des choses que j'ai voulu faire que je n'ai pas pu faire, gloire à Dieu. Parce que j'avais une mère qui priait pour moi. J'avais des personnes qui priaient pour moi. Je m'en souviens des fois quand on voulait faire des parties et le Saint-Esprit me harcelait. Hein? C'est comme, ah! Laisse-moi tranquille, je veux juste. Mais ça, c'est un regret que j'ai parce que j'ai quand même gaspillé plusieurs mois de ma vie. Et finalement, je me suis réveillé et j'ai vu. Je suis en train de faire un échange. J'échange le meilleur pour un substitut sale. Ça n'a pas de bon sens. Amen.
Amen.
Alléluia. Si je pourrais vous offrir aujourd'hui un billet de 500, mais qui est tout déchiré et sale, et ça vient aussi d'un jeu de Monopoly, comment est-ce qu'on appelle ça? Monopole, c'est ça? Monopoly. C'est ça. Mais si vous avez le choix entre 500 en argent de Monopoly ou un vrai billet, hein? Un vrai billet que tu peux dépenser ici au Canada sans être mis en prison, qu'est-ce que vous choisirez? Le vrai? Un billet de 100 canadien ou un billet de 500 Monopoly? Oh, mais moi, je vais prendre le 500. 500, c'est mieux que 100. Ouais, sauf quand c'est pas vrai, hein? Et, juste une chose à penser. Est-ce que vous êtes là ce matin? Le mal vous éloigne du meilleur. Et puis, troisième point qu'il faut faire, pourquoi Dieu veut-il qu'on s'éloigne du mal? Ça va de pair avec tous les autres points qu'on a déjà dit, mais le mal nous fait mal. Ding, 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 révélation. Le mal vous fait mal. Le mal nous fait mal et fait tort aux autres. Quand je vis dans le péché, je me fais mal à moi-même. Et je fais tort à mon prochain. Il y a plusieurs versets qui parlent de cela. Proverbe 5, 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Et en Proverbe 5, regardons, ça c'est un exemple. On parle de l'adultère ici, c'est juste un exemple. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Pourquoi est-ce que Dieu dit de s'éloigner de cette prostituée? Parce que de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Dieu ne veut pas que nous souffrions, n'est-ce pas? Verset 10, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Savez-vous, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui commettent spécifiquement l'adultère, c'est garanti qu'ils vont perdre même leur bien, même matériel. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Donc ça, c'est vraiment une image de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un s'attache au mal au lieu de s'éloigner du mal. On se fait mal et on fait tort aux autres. Vous vous rappelez de l'histoire de David, le roi d'Israël? Un jour, au lieu d'être à la guerre, parce que la Bible dit que c'était dans la saison où les rois sont allés à la guerre, mais David n'était pas allé à la guerre à cette époque de sa vie. La Bible dit que vers le soir, il s'est levé de son lit. Peut-être il était dans un petit état de paresse, n'est-ce pas? Peut-être il jouait un peu le paresseux, hein? Mais le soir, il se lève de son lit, se promène sur le toit, et ses yeux ont vu une jolie fille, femme, poulette, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Puis, wow, elle est belle. Bathsheba en train de se baigner, femme d'un autre homme. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à convoiter dans son cœur. Il connaissait la parole de Dieu. David aurait pu avoir légalement n'importe quelle femme qu'il a voulu, mais non, il voulait la femme de quelqu'un d'autre. Et mais qu'est-ce qui se passe? On sait que à cause de son péché, tout le monde était brisé. Bathsheba tombe enceinte. Le bébé meurt même. On voit le mari de Bathsheba est mort aussi, pas par hasard non plus. David l'a fait tuer. Et David lui-même tombe malade. Oh, c'est Dieu qui l'a rendu malade, mais écoute, c'est son péché qui a ouvert la porte. à toute cette souffrance. Donc, on voit dans cette histoire de David jusqu'à quel point le péché nous fait mal et fait tort à ceux qui nous entourent. Et c'est pourquoi Dieu veut qu'on soit un peuple saint, sanctifié, mis à part. Il veut qu'on s'éloigne du mal. Parce qu'il veut nous protéger. Parce que le mal nous éloigne du meilleur. Et parce que le mal nous fait mal et fait tort aux autres. Ça, c'est trois bonnes raisons de vouloir s'éloigner du mal. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes motivé d'aller pécher aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes motivé de vivre pour Dieu? Et de respecter sa parole et de suivre ses consignes? Pas faire comme un de mes enfants, je ne vais pas nommer. On avait un jour une fuite d'eau dans la maison, et c'est parce qu'on ne savait pas, mais quand ils ont construit la maison, ils ont accroché un tuyau et il y avait une petite fuite, et puis le trou a grossi, puis tout d'un coup, notre sous-sol est en train de recevoir un peu trop d'eau. Donc, ils sont venus, ils ont creusé, ils ont fait un trou, je sais pas, peut-être 10 par 10, et je sais pas, c'était creux de je ne sais pas combien de pieds, mais assez creux. À l'époque, on avait un de nos enfants qui avait, je pense, 4 ans. Dimanche matin, tout habillé, propre, des jolis vêtements, hein, propre pour dimanche. On va aller louer le Seigneur. Il sort de la maison. Il commence à faire le tour. Il court et c'est plein de boue et d'eau. On dit, hey, fais pas ça. Ça se peut que tu pourrais peut-être tomber. C'est dangereux. Il dit, oh, c'est correct. Fais le tour. Je vais pas tomber. Laisse-moi vous dire, c'était tout un spectacle. Hein? Il se lève et puis, pas juste un peu de boue, hein. Il est couvert. Et là, on n'a pas le temps pour ça, un dimanche matin. Hein? Le pasteur a besoin d'être à l'église. Et bon, on va aller changer les vêtements, laver le corps comme il faut, et on y va. Combien de fois Dieu dit, « Fais attention, tu vas tomber! »« Non, c'est correct, je ne vais pas tomber! » Oh, je vais jamais oublier ça. Je vais peut-être avoir un problème si quelqu'un raconte cette histoire à mes enfants, mais j'ai pas nommé la personne et j'ai 5 enfants, donc ça peut être n'importe qui. Bon, deuxième page, on va finir avec le OMC. OMC, c'est? Oui, mais comment? Comment vous éloigner du mal? Juste quelques points, 3 points que je veux souligner aujourd'hui. Première chose, si on veut s'éloigner du mal, numéro 1, apprenez à distinguer entre le bien et le mal. Il faut être capable de distinguer entre le bien et le mal. Ça, c'est une bonne partie du problème dans notre société. Parce qu'il n'y a plus noir et blanc. Tout est gris. En fait, notre société nous enseigne que on ne devrait pas même dire à nos enfants trop, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Il faut laisser les enfants découvrir et décider et choisir eux-mêmes. Laisse-moi vous dire, la parole de Dieu est claire. Et en fait, Dieu nous a donné une responsabilité en tant que parents d'instruire nos enfants, n'est-ce pas? Mais Hébreux chapitre 5, j'aime ce verset qui dit, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faite. » On parle de maturité spirituelle. « Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner, souligne le mot discerner, ce qui est bien et ce qui est mal. » Vous savez, une marque de maturité chez les chrétiens, c'est la capacité de distinguer entre le bien et le mal. Et le bien et le mal, c'est, comme je dirais ça, ça ne devrait pas être un grand mystère. Ça devrait être assez clair pour nous. Quand on voit quelque chose, quand on entend quelque chose, Nous qui sommes matures, on devrait être capable de trier tout de suite, dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ésaïe 5, 20. Voici une bonne indication de notre société aujourd'hui. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ça, c'est notre société aujourd'hui, n'est-ce pas? Il appelle les choses qui sont mal bien. Ça, c'est bon. Et on va même élever certaines pratiques, certains styles de vie, certaines façons de penser. On va dire, voilà, ça c'est l'exemple à suivre. Mais aujourd'hui, c'est le contraire de ce que Dieu dit dans sa parole. Malheur à ces personnes. C'est triste, ces personnes souvent sont très sincères, gentilles même. J'ai rien contre eux, mais j'éprouve quand même de la tristesse pour eux, parce qu'ils sont sincères, mais sincèrement dans les champs. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour distinguer entre le bien et le mal? Première chose dans cela, c'est de remplir votre cœur avec la parole. Plus vous connaissez la parole, plus vous connaissez le bien et le mal, plus vous connaissez le cœur de votre papa, vous allez savoir. Moi, je sais, ça fait 21 ans que je suis marié avec Tania. Moi, je sais qu'est-ce qu'elle aime, je sais qu'est-ce qu'elle n'aime pas. J'ai même pas besoin de consulter des fois. Comme j'ai dit dans le passé, si quelqu'un me donne un choix de restaurant, dit, ben, on veut aller manger au restaurant. Est-ce que tu veux manger mexicain ou italien? Qu'est-ce que Tania aimerait? J'ai pas besoin d'appeler de qu'est-ce que tu aimerais mieux, le mexicain ou l'italien? Parce qu'elle va choisir l'italien à chaque fois. Elle n'aime pas plus que ça le mettre mexicain. Et je pense qu'on a besoin d'arriver à une place dans notre marche avec Dieu où on n'a pas besoin de prier à chaque fois, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je fasse cela ou non? Ou aller fouiller dans la Bible à chaque fois? Oh, ça devrait être déjà dans notre cœur. On connaît Dieu assez de savoir si Dieu va être content de notre choix ou pas content. Et ça, ça vient avec le temps, mais ça vient pas juste avec le temps, ça vient avec le temps qu'on investit en méditant la parole de Dieu. Psaume 119 dit ceci, heureux, on parle de voir les jours heureux, n'est-ce pas? Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, ou on peut dire la parole de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. C'est-à-dire que si on ne se dirige pas après la parole, on ne va pas garder notre sentier pur. Amen. C'est pourquoi il faut que ça soit l'autorité finale dans votre vie. Pas l'opinion de vos amis, pas votre impression. Non, c'est pas pour moi, c'est pas si pire. Pour vous, c'est pas si pire, mais qu'est-ce que la parole dit? Amen. Je parle pas d'être légaliste. Je parle d'être en amour avec Dieu. Et d'aimer Dieu tellement, d'aimer sa parole tellement que je vais commencer à aimer les choses que Dieu aime et haïr les choses que Dieu haïsse. Qui le cherche de tout le cœur, qui ne commette pas d'iniquité. Pardon, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Vous voulez vous éloigner du mal? Serrez la parole de Dieu dans votre cœur. Connaissez la parole. Pas juste, je parle pas juste de l'encre et du papier, mais sa parole vivante. Il faut que ça vive. Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. J'aimerais ça que dans notre église, qu'on soit reconnu comme des chrétiens remplis de la parole. On connaît pas juste les versets, pas juste les gens qui sont capables de citer les versets Ségon, Sameur, Français Courant, mais les gens qui ont la parole de Dieu serrée dans le cœur et ça sort dans chaque situation. Amen. Alléluia. Donc, on continue. Numéro 2, OMC, oui mais comment? Numéro 2, développer une révérence pour Dieu. Tout le monde dit une révérence. La Bible appelle ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. On n'a pas peur de Dieu, mais on a de la révérence pour lui. Moi, j'aime, peut-être des gens qui ont un problème avec ça, mais moi, j'aime les armes à feu même. Je n'ai pas peur des armes à feu, mais j'ai pas mal de révérence pour les armes à feu. Je parle des armes à feu pour faire du mal aux gens, là, mais j'ai grandi avec ça. Mon père était un homme de plein air et tout, donc dans la famille de mon père, à l'âge de 12 ans, chaque enfant reçoit, pas en 12, mais en 20, parce que c'est pour les petits gibiers. C'était juste comme ça, OK? C'est pour la chasse, etc. Mais quelqu'un qui a une arme à feu n'a pas besoin d'avoir peur de l'arme à feu. Mais on devrait avoir du respect pour l'arme à feu. Parce qu'une arme à feu peut être très utile ou très dangereux. Et Dieu, j'ai pas peur de Dieu, mais j'ai quand même pas mal de respect pour Dieu. Il est tout puissant. Il est redoutable. Il est saint, saint, saint. Trois fois saint. Donc, une révérence pour Dieu nous éloigne du mal. Parce que quand je sais que Dieu aime une chose, je veux être là où Dieu est content. Et si je sais que ça ne fait pas plaisir à papa, je ne veux pas toucher à ça. Ce n'est pas parce que j'ai peur qu'il va me frapper, qu'il va me tuer, mais j'ai quand même du respect et de la révérence pour lui. Amen. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, les deux vont de pair. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Laisse-moi vous dire que la crainte de l'Éternel apporte la santé même pour notre corps physique. Il y a une autre chose, Proverbe 16, 6 dit, « La faute est expiée par la bonté et la fidélité et par le respect. » Il y a une autre version dans la seconde qui dit, « Par la crainte de l'Éternel mais, et par respect pour l'Éternel, on se détourne du mal. » Avez-vous du respect pour notre Dieu? Si nous avons du respect pour Dieu, il y a certaines choses qu'en tant que chrétien, on ne va pas faire. Amen. On ne parle pas de légalisme, on parle d'un amour et une révérence pour Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour craindre l'Éternel, pour avoir cette révérence? Apprendre à haïr le mal. Il faut haïr le mal. Mais attention, est-ce que tout le monde regarde comme il faut? Écoutez comme il faut. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut haïr le pécheur, mais il faut haïr le péché. Il faut aimer le pécheur et haïr le péché. Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre société encore, il y a certains péchés que ce matin, si je mentionnerais certains péchés, qu'il y a certaines personnes qui pourraient m'accuser d'un crime de la haine. Il y a des pasteurs qui ont déjà fait de la prison en Suède parce qu'ils ont dit, en certains, je ne vais même pas le dire aujourd'hui parce que vous savez de quoi je parle, en certains péchés n'est pas normal. Donc, il a fait un mois de prison parce qu'il a dit cela. Parce que dans notre société, si on dit qu'une certaine chose n'est pas normale, on est étiqueté, ah, c'est de la haine. C'est pas de la haine. J'haïs le péché. Pourquoi est-ce que j'haïs le péché? Parce que le péché fait mal et le péché fait tort. Le péché nous éloigne du meilleur. C'est pourquoi je déteste le péché. J'ai vu, et des fois, j'aimerais avoir l'occasion de parler à tous les jeunes de l'Église et de dire, de les secouer comme il faut dire. J'aimerais juste vous avertir. Parce que j'ai vu tellement des cas à travers les années, des cœurs brisés, les vies qui ont été détruites par le péché. La confusion et les catastrophes que j'ai vues et que j'ai témoignées, toutes ces choses causées par le péché. Je m'avais dit, ah, réveillez-vous, faites pas la même erreur. Faites pas la même erreur. C'est pas parce que j'haïs les personnes, on haït le péché. Amen. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la joie du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'haïs. Tu sais, Dieu dit dans sa parole, Proverbe 6, 16. Il y a six choses que haït l'Éternel. Voulez-vous savoir qu'est-ce que Dieu haït? Et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent du sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Dieu haït ça. Je pense que nous devrions haïr cela aussi. On devrait aimer Dieu, aimer les gens et avec compassion, essayer de convaincre les gens de connaître Jésus et de se détourner du mal et de s'attacher à Dieu. Amen. Troisième chose, comment vous éloigner du mal? Numéro 3, vivez comme un instrument de justice. Pourquoi est-ce que je dis cela? J'ai un point très important à faire ici. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vivre dans le péché parce que ils n'ont pas eux. Et écoutez ceci, si vous ne recevez pas autre chose, recevez ce que je vais dire là. Il y a beaucoup de gens qui vont continuer dans le péché parce qu'ils n'ont jamais eu une révélation de jusqu'à quel point ils sont importants et précieux aux yeux de Dieu et jusqu'à quel point ils sont nécessaires pour l'œuvre de Dieu ici sur la terre. Et parce qu'ils n'ont pas assez de respect pour eux-mêmes, est-ce que vous êtes en train d'écouter ce que je dis là? Des gens qui n'ont pas assez de respect pour eux-mêmes, ils vont dire, ben écoute, je fais pas mal aux autres. C'est pas vrai. À chaque fois qu'on pêche, on fait mal aux autres. Mais ils disent, oh ben, je fais pas mal aux autres, c'est juste moi. Mais quand on dit, c'est juste moi, on est en train de dire que je vaux pas grand-chose. Que j'ai pas beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire de toute façon. Si moi, je me détruis, tant pis. C'est pas plus grave que ça. Mais c'est grave! Nous avons besoin de vous! Et dès que vous avez cette révélation, je suis la création de Dieu, je suis destiné à devenir un instrument de justice que Dieu va utiliser dans son royaume. Je suis appelé à être un instrument entre les mains de Dieu. Quand vous avez cette révélation, vous ne voulez plus faire mal à l'instrument de Dieu. Il y a des instruments ici. Martin est où? Est-ce que je peux utiliser ta guitare? Oui? C'est elle, n'est-ce pas? Tu me donnes le droit de l'utiliser? Excellent, parce que je voulais aller jouer au baseball demain. Et j'ai perdu mon bâton. Merci. Je vais le ramener la semaine prochaine, OK? Ça, c'est un instrument qui a été créé par une personne avec un but spécifique. Et aussi longtemps qu'on respecte la raison d'être de l'instrument va rester en bon état. Mais si Pastor Ken joue au baseball avec, je pense pas que ça va sonner trop bien dans nos oreilles dimanche prochain. Et ça, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans les vies des gens qui savent pas jusqu'à quel point ils sont importants aux yeux de Dieu. Oh ben, si je m'abuse, si j'abuse mon corps, si je fais des choses que je sais que je suis pas supposé de faire ça, ben, vous êtes toutes, comment est-ce qu'on dit ça, méganés? Tout d'un coup, votre vie est moins efficace. C'est pourquoi, Romains 6, 11, on va finir avec ce verset-là. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Quand nous avons cette révélation que je suis créé par Dieu et pour Dieu, pour sa gloire, le diable me fait une offre de prendre mon corps, de faire quelque chose qui n'est pas correct, je vais dire non, je suis un instrument de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Je vais abuser, abîmer, détruire si je fais ça. Et puis, qu'est-ce que ça va faire? la prochaine fois que Dieu veut m'utiliser pour sa gloire, je serai en moins bon état, n'est-ce pas? Donc, je dis tout cela avec la conscience qu'aujourd'hui même, et écoutez, il y a plein de gens, probablement dans cette salle aujourd'hui, que dans votre cœur, le plus grand désir de votre cœur, c'est de vous éloigner du mal. Vous avez essayé, vous avez fait des efforts de vous éloigner de certaines habitudes, de certaines choses que vous savez, c'est pas correct. Et à chaque fois que vous le faites, vous savez que, ah, oh, je fais mal au temple du Saint-Esprit, c'est pas correct, je ne veux plus le faire. Et le message aujourd'hui, premièrement, c'est pas un message de condamnation. C'est pas un message de culpabilité. C'est un message d'espoir. C'est un message de joie en disant que Dieu est là pour vous aider à vous éloigner du mal. La meilleure chose, afin, et on va parler de cela la semaine prochaine, la Bible dit, éloignez-vous du mal, faites le bien. Si je me concentre sur Dieu et je m'approche de Dieu, et je m'approche de son plan pour ma vie, j'ai même plus besoin de penser au mal que l'ennemi veut que je fasse. Je suis trop occupé. Donc, le problème avec beaucoup des gens, les yeux sont fixés sur le mal et disent, je veux m'éloigner, je veux repousser cette tentation. Oh, je ne veux plus le faire, je ne veux plus le faire. On connaît tout ça, n'est-ce pas? Moi tout, comme on dit. J'ai vécu ça. On sait. Juste pour garder réveillé, là. Parce que qu'est-ce que je dis, c'est bien important. Cette stratégie-là, ça marche pas. Mais l'autre stratégie où on se détourne du mal et on dit, papa, Dieu, hey, je vois ma destinée en toi. Oh, je sais qu'est-ce que je suis appelé à faire. Oh, Seigneur, je t'aime tellement. Oh, je veux être avec toi. Je veux faire ta volonté. Vois-tu, plus je m'approche de Dieu, plus je m'approche de son plan, parce que Dieu est avec nous. Il est en nous. Il habite en nous. Mais plus je m'approche de lui et son plan pour ma vie, plus je m'éloigne du mal. Et à un moment donné, c'est même plus une tentation. Je suis tellement occupé avec le bien, tellement occupé avec son plan pour ma vie que tellement, oh oui, je m'en souviens. Mais c'est juste un souvenir très faible. Et merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour pointer le doigt à qui que ce soit, parce qu'à chaque fois que je pointe le doigt, il y a trois doigts qui pointent à moi-même. Mais je suis là pour nous dire, éloignons-nous de cela, ça ne vaut pas la peine. Dieu veut nous protéger. Dieu veut nous donner quelque chose de meilleur. Dieu ne veut pas qu'on se fasse mal, il ne veut pas qu'on fasse tort aux autres. Et qu'est-ce qu'il a pour nous? C'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Je veux m'approcher de lui. On va se lever debout ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Si Jean-Charles peut venir au clavier, on va rester sensible à la présence du Seigneur parce que je crois qu'il y a des vies qui vont être changées même ce matin. Déjà, il y a des vies qui ont été changées par la parole, mais on veut donner la chance au Saint-Esprit de faire son œuvre. Alléluia. Merci Père Céleste. Vous savez, premièrement, que chaque être humain est dans l'impossibilité de s'éloigner du mal et même de s'approcher de Dieu sans Jésus-Christ. C'est Jésus qui a ouvert pour nous une route nouvelle. Il a inauguré pour nous une route nouvelle dans son sang. Et c'est par le sang de Jésus qu'on peut s'approcher de Dieu, le Père. C'est par son sang qu'on peut avoir un libre accès devant le Père. Et aujourd'hui, si vous êtes ici, vous dites, « Pasteur, moi, pour être honnête avec toi et honnête avec moi-même et honnête avec Dieu, je sais que mon cœur n'est pas droit avec Dieu. Mon cœur n'est pas en règle avec Dieu. » Peut-être vous êtes ici et vous savez dans votre cœur que si vous trouverez la mort aujourd'hui, vous n'avez aucune assurance d'aller au ciel. Peut-être vous espérez, mais vous n'êtes pas vraiment sûr. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres de la chair qu'un homme peut être justifié. Il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour mériter la vie éternelle. Rien. Nous sommes tous nés dans ce monde comme pécheurs, séparés d'avec la gloire de Dieu. Avec un besoin, chacun, même la personne la plus fin sur la planète, avait quand même besoin d'un sauveur. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il est vivant et il veut vous offrir la vie éternelle comme un don gratuit. La Bible est claire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Un don gratuit. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Avec les yeux fermés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, « Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. Je veux quitter cette salle aujourd'hui avec une assurance, de savoir sans aucun doute que je suis son enfant, que je suis né de nouveau, que mes péchés sont lavés, que je suis blanc comme la neige. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, « Oui, je veux donner ma vie à Jésus ce matin. » Il y a une personne, deux personnes, est-ce qu'il y a quelques autres ce matin? Juste lever la main. Alléluia. Alléluia. Moi, je vais demander à vous qui ont levé la main de faire quelque chose. Ça prend du courage, ça prend du guts, mais c'est important. Parce que Jésus a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est au ciel. Et aujourd'hui, on n'a rien à craindre parce que Dieu est là et nous aime. Mais vous qui ont levé la main, j'aimerais juste vous inviter à venir me rejoindre ici en avant. On va prier ici. On va faire quelque chose de bien important. On va faire une prière ensemble. Venez. S'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas levé la main, qui aurait dû, juste venez. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous savez, juste regarde-moi. Tu sais, vas-y, ton nom, c'est Alain et Richard. Alain et Richard, vous avez pris une décision le plus important de votre vie. Et j'aimerais qu'on fasse cette prière ensemble. Et j'aimerais que toute l'Église prie avec eux. La Bible dit que si un pécheur se répand, que tous les anges des cieux se réjouissent. Et il y a des milliers d'anges qui sont en train de se réjouir. Il y a en partie un bruit incroyable au ciel actuellement. Alléluia. Mais on va prier cette prière. J'aimerais que tu répètes cette prière après moi. Et tout le monde prie cette prière aussi. Père Céleste, je viens à toi. Au nom de Jésus, et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur, mon Maître et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi tous les jours de ma vie. Merci Seigneur que ton Esprit Saint est entré en moi. Je suis une nouvelle création. Mes péchés sont pardonnés. Je suis lavé, purifié, blanc comme la neige. Je suis ton enfant. Tu es mon Père. Et je t'aimerai tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour Alain et Richard? Vous savez?